Bonjour à tous.
Hello, hello.
Bienvenue pour ce 16e épisode de l'Alconos. Alors, je vais quand même, par réflexe, vérifier si on a bien Discord. Ouais, c'est bon, on a Discord.
Est-ce que tu as démarré Audacity ?
J'ai démarré Audacity. Enfin, pourquoi je dis Discord ? C'est Audacity dont je parlais. On a Audacity.
Discord, il n'y a pas Discord.
Qui a bu ici ?
C'est toi. Mais chut, faut pas.
C'est un dos.
On n'a pas bu, hein. On n'a pas bu.
On a bu de l'eau.
On va peut-être éteindre l'enceinte, peut-être, la JBL.
Ça crée des interférences ?
Ouais. C'est possible que ça crée des interférences. Donc voilà.
Ceci n'est pas un placement de produit. Hein.
On se retrouve pour ce 16e épisode de l'Alconos, après une bonne pause de...
Un bon mois.
46 mois et 32 jours.
Longtemps, parce que pour cause de vacances, pour cause de fin de semestre, pour cause de flemme et de non-motivation, pour cause de
coronavirus.
Pour cause de coronavirus. C'est de la faute au coronavirus.
Yes.
Et on se retrouve avec une, comment dire, une émission un peu plus courte, je pense, que d'habitude.
Parce on verra.
On verra. Parce que, on a un peu préparé l'émission il y a 2 heures, donc...
Il y a une heure pour...
On n'était clairement pas préparé, là.
Oui, non, on n'avait pas du tout prévu les chroniques qui seraient aujourd'hui, en plus. Donc, il n'y a pas de chronique. Mais la semaine prochaine, Yvon nous fera une super chronique sur...
Dans deux semaines, Yvon nous fera une super chronique
sur je ne sais pas quoi.
Et ce sera sûrement une des dernières, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Ouais, parce qu'après, il y a le stage.
Non, mais pourquoi moi la chronique ?
Bah parce que.
J'aime pas.
On l'a décidé, c'est toi.
Il y a le PQ sur la table.
Putain, c'est vrai, il y avait du PQ sur la table.
On a plus de sopalin, c'est pour ça. Et quand on mange, pour s'essuyer la bouche, c'est pas pratique. Hein.
Oui, absolument. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler actu, on va parler coronavirus.
Ouais.
Yes.
Tu te moques, c'est pas à moi de commencer.
Si !
Non !
Oh putain, ça va saturer. Si, parce qu'on va parler du coup du truc fun de la soirée, ça s'appelle le coronavirus.
Tu veux dire de tous les trucs non fun de la soirée, parce que
ah non,
il y a un truc de bien.
Il y a un truc de bien, vas-y.
Il y a une bonne nouvelle, j'enlève mon casque parce que c'est pas du tout pratique pour ce genre d'émission. Qu'est-ce qu'il a encore foutu l'autre ? Le son de ce casque est pas très pratique avec ce genre de setup.
D'accord.
Je sais pas, il devrait y avoir un truc qui est pas...
D'accord.
Bref, bon bah c'est à toi Émilie du coup, vas-y. Parlez-nous du coronavirus.
Est-ce que vous m'entendez au moins ?
Oui, on t'entend.
Oui, je t'entends, oui.
Du coup, le coronavirus. Alors, déjà pour la petite anecdote super marrante. À Neuilly, il y a un homme qui s'est fait arrêter pour défaut de permis et qui a fait fermer un commissariat pendant 30 minutes parce qu'il a fait croire aux policiers qu'il était contaminé par le coronavirus, donc GG à lui. Petite dédicace spéciale de cette émission pour ce mec qui a fait ça. Ensuite, on a des gros problèmes en Italie, notamment. Là, il y a toute l'Italie qui est passée en zone rouge. Donc, quarantaine dans toutes les villes. Les gens doivent rester confinés chez eux le plus possible. Et toutes les funérailles, mariages, etc. ont été interdits, les messes aussi. Il y a des problèmes au niveau des avions aussi, donc on n'a plus le droit d'aller en Italie par avion. Ils ont vraiment tout cloisonné. Et les médecins supplient la population de se discipliner à ce niveau. Donc le président du conseil italien, Giuseppe Conte, a dit lundi dernier au soir, depuis la salle de presse du palais Chigi, que justement les gens devaient restreindre leurs mouvements, etc. Et que du coup, cette mesure concerne plus de 60 millions de personnes, ce qui est assez important quand même. Et les bars et les restaurants ferment après 18h.
C'est pratique pour le service du soir.
Voilà, donc ça, c'est concernant l'Italie. Ensuite, en Grèce, il y a la fermeture de toutes les écoles et les crèches et des universités, alors qu'il n'y a que 89 personnes de contaminées. Donc, comparé à la France, où on est un des pays les plus touchés par le Covid-19, donc le quatrième pays le plus touché avec 1606 cas et 30 décès.
Dont énormément dans le Grand Est,
ouais,
et surtout
ouais.
En Alsace.
Ça va, c'est dans le Haut-Rhin.
Ouais, non, il y en a aussi dans le Bas-Rhin. Il y en a genre un bled à...
Je dirais
le nombre après, exact.
Il y a un bled genre à 5 minutes de Bagnoles d'Issé où il y en a. Hein. Ah, il y en a aussi à Strasbourg.
Il y en a partout.
Sur 50 ans, on brûle tous dans les flammes de l'enfer. Alors...
Avant même.
Réchauffement climatique.
De toute façon, on n'aura plus de retraite.
C'est vrai, voilà. C'est vrai.
Du coup, tous les matchs, etc., ils ont été annulés dans la plupart des pays, surtout en Italie. En Grèce, ils se jouent quand même, mais à huis clos. Et là, au niveau de la France, on a notre président qui a dit mardi, en visitant le centre des urgences de l'hôpital Necker à Paris, que nous sommes au tout début de cette épidémie et que 85% de celles et ceux qui sont positifs au Covid-19 auront une forme bénigne de celui-ci. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on est un des pays les plus touchés par le Covid-19 actuellement en Europe et même dans le monde. On est le quatrième pays le plus touché avec 1606 cas et 30 décès. Au total, sur toute la planète, il y a 114 151 cas d'infection avec 105 pays, territoires de contaminés. Et on a 4012 décès. On rappelle après que c'est pas forcément le nombre de personnes qui est morte qui importe, mais la manière dont le virus peut évoluer. En Italie, il y a plus de 9000 cas avec 463 décès. Donc l'Italie a quand même un bon paquet de décès sur le dos. Ensuite, il y a la Corée du Sud avec 7513 cas. L'Iran avec 7161 cas. Il me semble que la Chine, je ne l'ai même pas dans mes stats.
Ah, la Chine, ça crève le plafond. Hein.
Ouais, ça crève un peu le plafond. Pour les petites anecdotes drôles, encore une fois, on a du coup notre ministre de la Culture, Franck Riester, qui a été testé positif. Et je cite, il a dit récemment, « Je n'ai vu aucun ministre, ni le Premier ministre, ni le Président de la République depuis la semaine dernière. » Donc on trouve ça assez mignon qu'il n'ait vu personne.
On peut dire qu'il a pioché la boule noire. Ouais, ça fait 10 minutes que je cherche comment caser un bruitage. Parce que oui, on a passé 10 minutes à chercher des bruitages.
Je suis content de pas les entendre, moi.
Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu la loose.
Oh, ça va.
Du coup, ce qui est bien en Chine, en Corée du Sud, c'est que le nombre de contaminations, de nouvelles contaminations baisse chaque jour. Donc, ils ont en diminution. Alors qu'en Europe,
il y a un peu des zones de confinement de partout, alors qu'en France, on fait des rassemblements de schtroumpfs. Hein, donc bon. Oui,
et du coup, chez nous, ça augmente et ça double tous les 2-3 jours. Donc les aéroports européens, ils ont beaucoup de moins de personnes. Ils ont une grosse baisse de leur fréquentation là, au niveau des gens qui viennent, etc., pour voyager. D'après l'ARS Grand Est. On aurait 310 personnes de confirmées positives au coronavirus dans le coin. Et il y en aurait 48 personnes de plus par rapport à hier, à la même heure. 53 cas dans le Bas-Rhin, 193 dans le Haut-Rhin, 22 cas en Moselle, par exemple. Vive le Haut-Rhin.
Il faut savoir qu'un des clusters, et on a eu des consignes par rapport à ça à l'université, un des clusters de grosses contaminations, c'était un rassemblement Cato à Mulhouse il y a quelques semaines. Où il y a eu beaucoup de monde qui y sont rendus. Bah, Cato, surtout les vieux, quoi. Du coup...
Du coup, ça a été un peu l'hécatombe.
Ouais. Je crois que c'était un événement où il n'y avait pas de liste de participants, en fait.
Non, je crois que c'était surtout je crois que c'est un gros truc. J'y connais rien et je ne sais même pas ce que c'était.
Ouais, moi non plus.
Mais je crois que c'était un assez gros événement, un événement assez important. Donc, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues. Et
qui se sont fait, du coup, contaminer.
Ouais. Yes.
Espérons que Dieu soit avec eux pour les protéger durant cet épisode Ripple. Il a réussi à le caser.
Ah ouais, franchement, là, tu vois, j'ai la soundbox là, qui est prête, j'appuie là quand je peux.
Bon, maintenant on va passer au sérieux. Donc là, on va passer à des études de chercheurs chinois sur le coronavirus, du coup. Et l'article, ça vient de The New England Journal of Medicine, super accent anglais, on sait. Du coup, il y a une personne qui dit que quand le premier patient chinois a été diagnostiqué positif au coronavirus, un de ses confrères lui avait dit « N'oublie pas de dire aux infirmiers que c'est qu'une grippounette. » Je cite ce qu'il a écrit. Hein. Et aujourd'hui, il fait partie d'une des personnes les plus inquiètes. Donc, visiblement, c'était le professeur Gilles Pialoux. Chef de service de l'unité des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Théron Paris 20e qui avait dit ça. Et en fait, dans l'analyse qui a été donnée, on a 1099 dossiers médicaux qui ont été évalués, qui ont servi d'études, de support d'études aux documents qui a été rendu. Et en fait, il y a des formes sévères de pneumonie virale qui ont été observées à toutes les tranches d'âge. Le coronavirus, ce serait 10 fois plus létal que la grippe. Il peut être fatal avant les 17 ans. Il y a 86% des personnes mortes de la grippe qui ont plus de 70 ans, mais seulement 50% qui avaient le coronavirus. Donc ça veut dire que les autres 50% sont bien quelque part. Il frappe beaucoup plus les personnes avec des pathologies préexistantes, donc ceux qui ont déjà des problèmes, ils sont vraiment touchés par le coronavirus.
Problèmes respiratoires, immunodéficience, des trucs comme ça.
Ouais, c'est ça. Même ça peut juste être du diabète ou des choses comme ça. Et alors quand on a plus de 70 ans, là, c'est c'est les doubles combos, c'est la fin. Il y a 16% des patients qui ont besoin d'être hospitalisés, ce qui est quand même assez important. Et il y a 5% des patients qui sont sous ventilation artificielle de manière durable, donc durant environ 20, voire plus de 20 jours, ce qui est quand même assez préoccupant et ce qui est surtout... Ça prend de la place dans l'hôpital. Enfin, quand on a une personne qui reste plus de 20 jours hospitalisée, on ne peut pas s'occuper d'autres personnes qui pourraient être au même endroit, quoi. Ce qui est assez aussi difficile, c'est que les personnes infectées sont asymptomatiques au début. Donc il y a 56% des personnes qui n'ont aucun accès de fièvre dans les premiers jours. Et 68% qui n'ont pas de coin de toux au début aussi. Il y a une aggravation forte de la maladie qui peut apparaître au 7e ou au 10e jour, enfin entre le 7e et le 10e. Et pour l'instant, la capacité des hôpitaux parisiens n'est pas saturée, mais le nombre de patients double tous les 5 jours environ. Ça, c'est les vrais chiffres. En France, sinon, on a l'interdiction du coup de plus de 1000 personnes au niveau des rassemblements. Et il y a certaines personnes qui disent que ça tue les PME... à cause des problèmes qu'il y a du coup avec les gens qui ne peuvent pas travailler ou des produits qui ne peuvent pas être délivrés, etc.
Et il y a une nouvelle crise financière qui est en train de démarrer aussi, qui n'est pas totalement due au coronavirus, mais...
Ouais, bon, c'est un mix de tout après, mais...
Bonne grosse crise qui a bien... je vais aller regarder en direct l'indice du CAC 40, voir combien il est.
Non, mais il y a tout qui a baissé au niveau du CAC 40. Il n'y a rien qui est dans le positif, en fait. Tout est dans le rouge, normalement. Et ça fait plus d'une semaine que ça dure.
Alors, par rapport, donc je me base sur un mois, ils étaient à 6030 points à peu près le 21 février. Actuellement, ils sont à 4700. Donc, il y a eu une belle baisse.
Pas trop, mais je sens que c'est un peu la merde quand même.
Ouais, il y a tout qui est dans le rouge quand tu vois les chiffres.
Quand tu regardes, même sur 6 mois, même sur...
Il y a des baisses de partout.
Sur 6 mois, même sur un an... Il y a le CAC 40 a chuté. Oui. Oh, sur 5 ans, par contre, on s'en fout. Mais sur un an, c'est assez abusé. On est encore plus bas qu'il y a un an. Voilà. C'est la fête.
Ouais. Sinon, au niveau du coronavirus, il y a eu beaucoup d'arnaques, etc., qui ont été mises en place. Et par exemple,
de spéculation autour des masques et tout ça.
Ouais. Par exemple, il y avait des faux policiers qui avaient mis des amendes de 150 euros à des personnes chinoises qui portaient des masques sur Paris, il me semble. Ils disaient, écoutez, vous n'avez pas le droit de porter des masques à cause de la loi qui interdisait le port du voile intégral, etc. La loi sur la dissimulation de la personne. Donc, super joie.
Ah ouais, non, mais en France, on est quand même bien logique. Bon! Il faut qu'on évite la propagation du virus. Tout le monde porte des masques. Ah bah non, en fait, c'est pas, ça
non,
marche
non,
pas.
Non, ça peut pas aller.
En fait, il faut qu'on puisse les surveiller, les gens, vous savez. Ah, ouais, c'est la fête.
Mais concrètement, en France, contre le coronavirus, on fait quasiment rien. On fait rien.
À part
dire de se laver les mains avec du savon, de pas tousser sur les gens et de pas serrer la main des gens. Non, il n'y a pas grand-chose.
J'ai un site que j'ai remarqué qui est vachement bien, qui s'appelle... Je suis en train de rechercher le lien, qui s'appelle Wash Your Lyrics. En fait, vous tapez les paroles d'une chanson, vous tapez le nom d'une chanson, et il vous fait il prend une affiche de l'Organisation américaine de la santé, et en fait, il vous colle des paroles dessus pour que vous sachiez combien de temps il faut par rapport aux paroles où vous lavez les mains. Par exemple, j'ai fait avec une chanson très connue, je vais vous la faire, quitte à faire, ça commence par « Les mots me manquent », vous vous lavez les mains. Ensuite, « J'aimerais crier », vous mettez du savon. Muette saltamanque, vous commencez à frotter. La gorge nouée, c'est les doigts. Et ça monte. Vous continuez les doigts de l'autre côté. Jusqu'à ce que vous lavez les paumes. Mon petit cœur disjoncte, c'est le premier pouce. Et ça fait bim bam boum, c'est la deuxième. Et voilà, bref, je vais pas la faire en entier. Mais en gros, sur le refrain de bim bam, bim bam, bim bam,
bim bam, boum.
Bim bam toi de Carla, vous pouvez vous laver les mains pendant bien 20 secondes.
Ça, c'est sous condition d'avoir du savon, ce qui n'est pas forcément le cas.
On n'en a pas au DUT. On vous aime, le DUT.
Ouais, surtout le premier étage. Mettez les chiens.
Oui, totalement.
Il y en a partout, sauf au premier étage.
Exactement.
Mais ouais, en France, ça fait peur quand même. Parce qu'en fait, quand tu compares par rapport à certains pays, j'ai vu la Turquie. La dernière fois que j'ai vu, ils n'avaient aucun cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
Non, ouais. Je pense qu'ils ont des cas depuis le temps.
Oh,
je pense
en Turquie, au moment où ils n'avaient pas encore de cas enregistrés dans le pays, ils avaient déjà mis des distributeurs de... des distributeurs de gel hydroalcoolique dans les rues, alors que bah ils...
alors que nous on plafonne le prix à 3 euros.
En France, ils le font payer 30 balles le petit flacon de merde là.
Alors sachant que le truc qui est drôle, c'est qu'il y a quand même Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui est en mode ouais bah c'est pas normal les gens qui spéculent sur le gel hydroalcoolique. Mec, tu es ministre de l'économie, tu connais pas le truc de la loi de l'offre et la demande en fait, voilà.
Ouais, c'est pas normal quand même dans tous les cas.
Oui, oui, mais du coup en fait ils ont plafonné le prix, mais en fait il y a toujours des ruptures. Parce qu'en fait, le prix, il est plus bas que le prix auquel les pharmaciens les achètent.
Par contre, ce que je comprends pas, c'est le PQ, les crises de PQ qu'il y a en Australie et dans d'autres pays. Ça, je comprends pas pourquoi les gens achètent du PQ en fait.
Bah, parce que c'est un produit de première nécessité, je sais pas.
Bah non,
Ils font de la réserve à fond de tout ce qu'ils peuvent. Et...
mais du PQ, tu peux prendre, je sais pas, genre des serviettes que tu peux laver ensuite, t'en as pas besoin. Alors que la bouffe, bah, s'il y en a plus, il y en a plus.
La folie humaine.
Pareil pour les médocs. Genre vraiment, je comprends pas.
Non, Jules.
Je
pas des mêmes à la con.
J'ai rien fait.
T'as fait.
Ouais, il va faire dans 5 secondes.
Non.
5, 4, 3, 2, 1.
C'est honteux.
Voilà.
C'est honteux.
Bah, rapidement, juste petite anecdote à peu près inutile. Aujourd'hui, à l'UIT, j'ai déjà croisé une personne avec un masque de protection. Moi, c'est le masque de base que
j'ai. Ouais, je crois que j'étais avec
toi. J'en ai croisé plein.
On a croisé un mec qui a un masque. Sur le coup, j'étais en mode, bah, en fait, ça sert à peu près quasiment à rien pour ceux qui ne sont pas infectés.
Ouais, mais s'il est infecté, ben...
s'il est infecté, oui. Et à ce moment-là, il est pas
censé. Il devrait rester chez lui, ouais.
Ouais, c'est un peu la panique.
C'est là que tu te dis, bah, en fait, c'est pas si loin que de chez toi, en fait. Hein, donc,
Bah, comme dit, un village à 5 minutes au bagnole d'ici, t'as le virus. T'es en mode, yes.
Puis t'as la France qui est en mode, lavez-vous les mains, ça passe.
Ça
et
va,
et
ça
t'as
va.
La Bretagne qui est en mode, vas-y, on fait un rassemblement de schtroumpf.
Ça pourrait être bien.
Ah, la Bretagne, toujours dans nos cœurs. Hein, voilà.
Vive les crêpes.
Vive les crêpes, vive les Bretons.
Alors, la suite peut-être.
Qu'est-ce qui se passe? Ma souris qui part en steak, qui décide de me dire, va te faire foutre.
Tant qu'elle part pas en frites.
Yes.
Bon, bah vas-y, Yvan, du coup.
À moi de parler sur quoi?
Bah, c'est soit moi qui vais parler d'un truc super cool, soit c'est toi qui vas parler d'un truc vraiment cool.
C'est quoi?
Ah, Ebola.
Attendez, il y a deux trucs cool.
Non, moi c'est pas un truc cool.
Donc, ouais, je me disais aussi.
Petite bonne nouvelle.
Par contre, je te rappelle que t'as pas de casque, mais qu'il faut quand même bouffer le micro.
Attends, on a pas une petite musique à mettre pour un truc positif là?
Alléluia.
Ouais, remets le Alléluia.
Bonne nouvelle sur cette putain de chaîne là. Récemment, le. Oui, j'ai du mal à parler. Récemment, donc, il y a le... Je sais plus qui...
Mais parle dans ton micro, on t'entend
mais
pas.
Mais quoi? Mais arrête
Mais on t'entend pas.
Non, mais personne nous entend, en fait. Même moi, là, je m'entends plus.
Mais il faut que tu montes ton son,
ce con.
Non, bref,
récemment, donc, on a appris que le dernier patient, la dernière patiente, d'ailleurs, atteinte du virus d'Ebola, en République démocratique du Congo, est sortie de l'hôpital, saine et sauve. Et que donc, officiellement... en RDC, ce sera beaucoup plus simple. Il n'y a plus aucun cas de. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Il n'y a plus aucun cas de personnes infectées par Ebola. J'entends pas, je sais pas ce que tu fais.
Alléluia. Mais mets un truc bien, je peux y faire un autre truc bien.
Mais j'ai des effets, je vais pas les entendre.
J'ai rien de mieux.
Alors, donc même si officiellement il n'y a plus de personnes infectées par Ebola en RDC. Ça veut pas dire que il est complètement disparu du pays à fond. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis sûr qu'il a mis des effets à la con.
Oui,
je mets un effet cathédral pour.
Non, mais
pour
là, on parle d'un truc sérieux et tu veux. Oh.
Mais non, mais c'est
ça
un
va
truc
bien
pire.
Que Alléluia.
Ouais, mais
oui.
Bon, bref, c'est pas parce que donc le dernier patient officiel est sorti donc des centres de soins et saine et sauve et sans. Bref, elle est plus infectée. Que le virus est complètement disparu du pays. Il y a justement une période de 42 jours qui est instaurée justement après les soins des derniers patients, pendant lesquels, si vraiment il n'y a plus aucun cas qui est recensé, on peut dire officiellement et de façon définitive que le virus a disparu du pays. Donc, voilà.
Bah c'est cool, c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que tu avais la manière peut-être dont le virus se transmettait et les effets du virus sur la personne?
Alors, les effets du virus...
C'est la merde.
Oui, ça, c'est plutôt mortel, hein, dans le mauvais sens du terme.
Oui, on avait compris.
Et donc, aussi petite information, donc avec 2264 victimes, la 10e épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième plus grave de l'histoire, après celle qui avait touché donc l'Afrique de l'Ouest en 2014, qui au passage avait fait plus de 11 000 morts, donc principalement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Cette dernière phrase a été tirée bien entendu du site Le Monde. Je ne vais pas dire une phrase complète sans citer la source. Merci Le Monde.
Le Monde avec nous.
Yes.
Le journal Le Monde.
Et du coup, c'est à moi qui vais parler d'un truc vraiment un peu déprimant. Vous vous souvenez de notre très cher président de la République qui disait « Non, mais si vous voulez voir une vraie dictature, allez la vivre. » Oui, bah alors, comment dire ?
Oh oui, cette fameuse...
Vous souvenez, vous connaissez le principe de surveillance de masse et de... Alors, juste pour situer le contexte, on est en informatique, donc on sait ce que ça veut dire respecter les données personnelles.
Ah bon ?
Et il y a certaines choses que tu n'es pas censé stocker. C'est-à-dire, entre autres, l'origine...
Les données personnelles.
L'origine non, pas forcément les données personnelles, mais l'origine raciale. Oui, mais les trucs vraiment sécurisés, les trucs médicaux...
Raciale.
Les
sexuelle, religion, syndicat,
tous les trucs qui peuvent bien te discriminer. Et bah là, la gendarmerie a eu la très bonne idée de créer une application qui s'appelle Jeune Note, et en gros qui est censée remplacer le petit cahier tenu par le gendarme où il notait tout ce qu'il voulait. Mais en gros, c'est juste, la gendarmerie dit que c'est juste un truc pour numériser. Ouais, mais du coup, ça fait que c'est
en ligne.
C'est en ligne. Et
les données sont pas sécurisées.
Et voilà, il y a plein de trucs très très drôles. Donc déjà, c'est utilisable uniquement depuis NeoGen, qui est les tablettes et les téléphones chiffrés de la gendarmerie. Sachant qu'il y a aussi là-dessus...
Chiffrés.
Non, je crois que les téléphones sont chiffrés.
Ouais.
Je crois que les téléphones sont chiffrés.
Mais les données, par contre.
Ah oui. Et c'est en gros, ils peuvent écrire...
C'est envoyé avec des cookies.
Voilà, c'est ça. Et en gros, dedans, tu as des différents champs, tu as l'identité de la personne, tu as des photographies, une adresse, un numéro de téléphone ou encore l'identification du véhicule.
Combien de milliards ont été foutus dans ce projet ?
Beaucoup trop.
Beaucoup trop.
Et en gros, ça permet de faire un...
Le coronavirus qui arrive.
Oui, mais chut. En attendant, ça permet de faire un traitement automatisé des données, donc c'est très très rassurant. Et en gros, tu as une zone de commentaires libres à utiliser en cas de nécessité absolue. Tu mets 12 guillemets.
Qui est complètement torché, je sais
pas. Où les gendarmes peuvent renseigner.
Là, je supporte pas.
Où les gendarmes peuvent renseigner ce qu'ils veulent, en gros.
Ouais, ouais.
L'origine raciale ou ethnique, les opinions
tortues.
Politiques, l'opinion politique, philosophique ou religieuse, l'appartenance syndicale,
hashtag
à la santé.
À tes souhaits.
Ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Tous les trucs qui sont un minimum craignos.
Petite parenthèse qui n'a rien à voir, j'ai toussé, il a éternué, on n'est pas contaminé, calmez-vous.
Par contre, moi oui.
Yes.
Et en gros, voilà, ils peuvent, enfin, c'est un peu le gendarme qui dit en cas de nécessité absolue. Rappelons que les CRS, pendant la marche du 7 mars, ils ont fait une utilisation proportionnée de la force.
Comme d'habitude.
Posons juste ce contexte-là.
Ils utilisent vraiment leurs armes en cas de nécessité absolue et dans lesquelles ils sont en situation de danger immédiat.
Mais ce manifestant, il me regardait mal, je te jure. Je lui ai tiré deux coups de LBD 40 plus une grenade de désencerclement dans les couilles.
Il
n'y avait plus de problème.
Il m'a mal regardé, on l'a attaqué au bazooka, c'est normal.
C'est normal, c'est de sa faute. Et sachant que les fichiers sont pas cryptés sur les serveurs, donc
yes,
c'est un petit peu yes.
Ces années d'études pour découvrir le chat 200, je sais plus combien.
Ils utilisent des appareils ultra sécurisés, des serveurs sécurisés, mais les données.
Mais les données sont pas sécurisées, c'est ça.
Mais en fait, ça veut dire que n'importe quel hacker, sachant qu'on connaît les capacités de sécurité des systèmes informatiques nationaux.
Et des fois, t'as ton PC, un VPN, c'est bon, t'as fait le truc et il te voit pas, quoi.
Ah non, c'est super craignos. Et en gros, tu peux aussi faire beaucoup de fichage d'activistes grâce à ça. Parce que bon,
yes,
tu peux dire oh bah tiens, lui, il a une bonne tête de. Insérer. Rappelons aussi que tu peux te faire ficher qu'un journaliste qui est par Gaspard Glantz, je crois, ou Gaspard Glantz.
Ouais, Gaspard Glantz.
Il est fiché S en tant que appartenance à un groupe mouvement gauche d'extrême radical, alors qu'il est juste journaliste. Bref, et sachant que d'après ce que j'avais vu, le maire du village y a aussi accès. Le maire du village a accès aux notes.
Yes,
donc imaginons le maire de village, genre. Quelqu'un qui...
Un petit village de deux personnes,
ouais,
48
non, mais...
personnes.
Mais non, mais t'imagines le contexte...
qui ne connaît pas une seule personne et qui se dit « Oh !»
Ouais, non, mais c'est ça, le maire qui peut avoir tous les trucs sur des habitants. Donc c'est très, très rassurant, voilà.
Et, non, mais en France, moi, perso, je me sens plus du tout en sécurité.
Ah non, 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 mais... En France, c'est un délire.
This is la dèche, hein.
Yes, of course.
C'est...
Émilie, je crois que tu vas nous parler d'un truc...
Tu veux pas qu'on fasse une pause, vu que ça fait 30 minutes.
Mais j'ai pas prévu une musique.
Monsieur.
Ça fait pas 30 minutes, ça fait 23.
En vrai, ouais, on a commencé un peu tard.
C'est vrai.
23, ah, ça va. Hein.
On n'a pas commencé à 30.
Non, on a commencé à 40.
Coup dur pour l'État.
Et du coup, Émilie, tu veux nous parler d'un autre truc cool.
Ouais.
Tu veux nous parler de Uber.
Uber et la dispari...
disparité.
Non.
Disparisation.
L'ubérisation.
Comment on dit quand ça disparaît?
Disparition.
La disparition.
C'est la fatigue.
Du alors, statut d'indépendant.
J'ai dit disparisation pour disparition au premier degré.
Ouais. Allez, du coup, il y a environ un an, on a la Cour d'appel de Paris qui avait requalifié un salarié qui travaillait pour Uber en justement un salarié, alors que normalement, ils ont un statut d'indépendant.
En contrat avec la plateforme de Uber. En gros, c'est juste un contrat entre deux entreprises.
Et du coup, donc, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, ils avaient prouvé qu'en fait, il existait un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Et dès lors, ils se sont dit que justement, le chauffeur ne réalisait pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant, mais en qualité de salarié. Donc ça signifie en gros qu'on a la justice du travail qui s'applique au lieu d'une justice qui est commerciale. Et donc là, on a un arrêt qui a été fait le 4 mars 2020 par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire qui a requalifié justement en contrat de travail la relation entre un chauffeur et Uber. Donc toutes les personnes qui peuvent travailler pour Uber sont requalifiées en tant que salariées. Donc techniquement, qu'est-ce que ça leur ouvre comme voie et qu'est-ce que ça leur offre? Donc là, en fait, ces travailleurs vont pouvoir bénéficier du droit de salarié. Donc ils pourront avoir des congés payés, une mutuelle, des indemnités de licenciement ou des indemnités compensatrices pour les congés payés. Donc en gros, le code du travail s'applique, quoi. Et donc là, la personne qui avait été rejugée un an en arrière va passer au conseil des prud'hommes et pas dans un autre conseil pour régler cette affaire. Et du coup, voilà, ils avaient jugé que comme un chauffeur Uber ne créait pas sa propre clientèle, ne fixait pas librement ses tarifs et ne déterminait pas les conditions d'exécution de sa prestation de transport, eh bien, ce n'était pas un indépendant, mais une personne sous avec un lien de subordination avec la plateforme.
Sachant que ça va faire un grand, grand bruit parce que, en gros, maintenant, ça veut dire que ça fait jurisprudence, déjà. Ouais. Et du coup...
ils vont devoir payer plus de thunes et devoir plus de choses.
C'est ça. Beaucoup de personnes, ça va faire un gros truc. Et sachant qu'il y a le ministre du Travail qui a fait « Eh, attention, nouvelle règle !» Du coup, « Oh non, mais il ne faudrait pas que les entreprises qui exploitent les Français puissent ne plus les exploiter. On est en train de rechercher comment faire des nouvelles lois. »
Oui, c'est ça.
Elle l'a dit ouvertement, donc c'est un petit peu en mode « Mais va te faire foutre, connasse !»
Au final, ça va quand même, quoi. Enfin, ils n'ont pas soucié Uber et ils sont encore tranquilles pour un moment.
Bah, sachant qu'ils ne payent pas leurs impôts en France non plus. Bon, c'est un petit peu...
On va pas
comme
parler.
Très peu, d'ailleurs.
Ouais, ouais, c'est ça.
Oui, c'est un peu... Bah, c'est... Voilà, bref, j'aime pas
ça,
beaucoup.
Malheureusement, c'est un peu devenu l'habitude, quoi.
Mmh. Bah, pour les grosses entreprises...
#Adidas.
Hashtag Google, hashtag Facebook, ouais, hashtag...
Hashtag
Balkany. Balkany est plus fin que lui, je ne connais pas. Alors c'est formidable, j'ai ma souris qui décide de partir en couille, donc je peux pas cliquer sur le conducteur.
Il faut torcher le trackpad, littéralement.
Ouais.
Je torche avec la main comme ça en mode bas les couilles et souvent ça
on
marche.
On peut pas savoir ce que tu fais avec ta main et le trackpad.
Bon bah je torche mon trackpad. Et du coup ça y va.
Sur les O3C donc.
Ouais c'est ça, tu veux nous parler du bac. Et bah ça a réglé le souci.
Effectivement, bah, je t'avais dit que ça marchait.
Bah ouais de ouf.
Donc, effectivement, je vais vous parler donc, des E3C, qui signifie, je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, voilà. Contrôle continu de... Enfin, non, c'est
de connaissance.
C'est, je ne sais plus ce que c'est. Contrôle continu et bref. Donc, c'est, ça fait partie d'une des réformes principales dont avait parlé Macron lors des présidentielles et qu'il voulait absolument mettre en place.
Attends, il avait prévu des choses aux présidentielles.
pendant les présidentielles, ouais, il avait un programme.
Allez, il le respecte, son programme. Il fait ce qu'il disait. Hein.
Ouais, ouais,
il met la carotte
malheureusement,
à tout le monde, mais il fait ce qu'il disait.
Il y a certains trucs où il nous carotte un peu, hein, la réforme des retraites, par exemple. Hein.
C'était prévu.
Oui, mais il avait prévu de ne pas augmenter l'âge de la retraite.
Oui, et, non, mais il faut
en
se faire
soi,
lire. Hein,
en soi, il ne l'a pas augmenté, ouais. Mais si tu veux une meilleure retraite, il faut que tu travailles plus, c'est tout.
Il avait surtout un programme qui n'existait pas, donc bon, après, c'est
voilà.
Simple de tisser les choses à partir de
donc,
ça.
Donc, pour vous resituer le contexte, globalement, donc avant, donc le bac normal, c'était seconde, première, terminale, épreuve du bac, fin.
Donc pareil, en seconde, soit vous choisissez entre général et technologique. Personnellement, j'ai fait général, technologique, je sais pas trop comment ça se passe. Et en gros, bah, tu fais général.
Non, t'as fait un bac techno, toi ?
Non, général.
STU2D,
enfin, général et techno, quoi.
Bah, STU2D, c'est un bac techno.
Oui, mais enfin, j'ai fait une seconde générale.
Oui.
Et après, j'ai fait bac techno.
Oui, 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 oui.
C'est la seconde, là, je parle.
Oui,
pardon. J'étais peut-être pas clair. Et en gros, après, en première, vous choisissez ce que vous faites exactement. Par exemple, en l'occurrence, moi, STI2D. Le bac qui sert à rien. Enfin, qui sert, mais top. Voilà. Et donc, après, donc, première terminale, vous avez votre bac. Enfin, vous avez votre, vos enseignements précis en fonction de la filière que vous avez choisie.
STMG,
et à la fin, voilà. Et à la fin, vous avez toutes les épreuves à peu près en même temps. Donc, le nouveau bac, tout simplement, ça remplace les bacs généraux et technologiques. Et en gros, en seconde, ça se passe à peu près pareil, je crois. Et après, en première et terminale, donc là, c'est plus toutes les épreuves de bac à la fin. C'est en gros un contrôle continu. Et au début de la première, il faut que vous choisissiez toutes vos spécialités en fonction de ce qui vous plaît, les maths, l'histoire, le français, je ne sais pas tout ce qu'il y a. Et c'est, ça pue la merde, personnellement, ouais, ouais. Je pense. De tout, pour l'instant, j'ai trouvé aucun témoignage disant « Ouais, c'est trop cool », à part Macron.
Ben, le truc, Blanquer. C'est qu'en général, quand tu choisis comme ça des enseignements qui sont assez spécialisés, tu ne vas pas forcément découvrir des choses que tu pourrais découvrir ou justement commencer à apprécier certaines choses. Moi, je sais que les maths, j'ai commencé à apprécier ça en seconde. Et avant, j'ai détesté ça complètement parce que j'ai une bonne professeure et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais je me dis, si tu n'aimais pas la SVT, par exemple, avant et que tu ne choisis pas la SVT après, en fait, tu n'as plus aucune chance qui est donnée dans cette matière.
Mais aussi, par exemple, j'ai un moment eu le témoignage de quelqu'un qui justement a décidé de faire des maths pour le bac parce qu'elle aimait bien les maths. Sauf que c'est un bordel monstre. T'as des heures de travail pas possibles, que ce soit à l'école ou chez toi. Et globalement, ça, c'est autant, voire au-dessus du niveau maths sup en fait. Enfin, maths sup, donc c'est complètement taré en fait. Et donc, le résultat de tout ça, on avait vu hein, qu'il y a eu énormément de manifestations d'élèves qui, justement, étaient contre la réforme du bac, qui bloquaient les lycées, qui empêchaient beaucoup d'élèves de participer aux épreuves.
Sachant que les personnes qui likaient juste une photo sur Instagram de blocage, le principal disait bah « Non, tu peux pas repasser, t'as liké nos photos, va te faire foutre ».
Le rattrapage est disponible que pour les personnes n'ayant pas pu participer aux épreuves avec une raison valable, exceptionnelle, ou tout dans ce genre.
Super.
C'était une pure merde. Hein. En plus de ça, il y avait pas mal de fuites de sujets sur Internet. Tu avais littéralement des banques de sujets sur Internet.
Bah, en fait, le principe des nouveaux E3C, c'est que ça ne se passe pas à une date unique comme nous avant.
Oui, c'est...
Ça se passe sur tout un mois.
Et
t'as plein de sujets.
C'est l'école en plus qui choisit quel jour il veut faire.
Et
c'est
le principal. Il y a 80 sujets.
Ouais, il y a beaucoup de sujets par matière. C'est le principal qui choisit le sujet et qui choisit la date où tu passes. Sachant que, bon, vu le nombre de lycées, tu as une période de 2 semaines ou 2-3 semaines. C'est comme nous, il y avait les ECE en bac S. Les ECE, en gros, c'est une épreuve du bac où, en gros, tu avais une liste de sujets. Et en fait, les années d'avant chez nous, tu as une liste de sujets et tu piochais au hasard. En fait, c'était pris au hasard.
Non, on n'a jamais eu ça.
Mais c'était en bac, toi, tu es en ES. Nous, c'était en S.
Mais pourquoi que en S?
Parce que c'était un truc S en physique et SVT, c'était un TP noté.
Je trouve ça un peu bizarre.
Bah, c'est un truc du bac, c'est comme ça. C'est juste, nous, on a eu ça. Et en fait, t'avais les autres années, en fait, t'avais les sujets qui étaient pas connus, enfin qui étaient cachés. Mais sauf qu'au bout d'une semaine, au bout de 2 jours, ça se retrouvait sur Internet. Donc cette année, ils ont fait panique. On met les sujets en avance, comme ça, on a la liste des sujets. Les élèves se préparent, mais de toute façon, ils n'auront pas le temps de préparer les 200. Enfin, les 120, nous, il y en avait. Donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils étaient en mode oh, mais de toute façon, les élèves, ils vont pas s'organiser, franchement, ils sont un peu cons, les élèves. Ah ouais, mais sauf c'est... que au bout d'une semaine, tu avais des Google Drive avec directement des dossiers par matière et même des sites internet qui étaient faits par des développeurs avec une belle interface où tu choisis ta matière, tu as des corrigés. C'était un bordel.
Sachant que quelques jours après, du coup, l'apparition des premiers sujets sur internet, la personne en fait exacte qui a dit ça, je crois que c'était peut-être le ministre de l'Éducation, un truc dans ce genre. Qui avait dit que justement, ceux qui trouvaient les sujets sur Internet, au final, ça leur récompensait d'avoir recherché les sujets et d'avoir travaillé. Et ceux qui n'ont pas cherché à avoir les sujets sur Internet, tant pis pour eux, ils avaient qu'à le faire.
Bah, c'est pareil
tant
pour
pis
nous,
pour eux, ils avaient qu'à le faire.
Ouais. Quoi? Mais j'ai pas, je l'ai pas moi.
Mais il faut pas que t'entendes ça.
Et d'ailleurs, il y a le 3C qui a également été boycotté par énormément de profs et tout ça. Et après, bon, blague à part, du coup, grâce ou à cause de l'E3C, je sais pas trop. Il y a quelques années, j'aurais...
On lève juste ton téléphone des câbles, ça fait des interférences.
Pardon.
Ah ouais, c'est ça.
J'étais en train de chercher, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a changé.
Donc, il y a quelques années, j'aurais dit yes, maintenant je me dis, bon, c'est un peu long. Mais du coup, les secondes, maintenant, n'ont plus 3 mois de vacances. Ça a changé, ça. Quand ils font de seconde générale, ils n'ont plus les 3 mois de vacances qu'on avait, nous.
Ils en manquent 2.
Pas plus mal, hein, d'un côté.
Un et demi ou 2. Mais en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais trop content, littéralement. J'étais en mode, vas-y, les vacances, c'est trop bien. Maintenant, je me dis que 2 semaines de vacances, c'est trop long.
Oui.
Non, moi, plus il y a de vacances, mieux c'est.
Ben, en soi, c'est bien.
Il suffit juste de trouver des choses à faire.
En fait, il faudrait diviser le temps de travail par 2 et... Pareil pour les vacances, en fait. Genre, au lieu que ce soit 6 semaines, 2 semaines, en mode travail-vacances, il faudrait que ce soit 3 semaines, 1 semaine. J'avais vu un truc comme ça à un moment, bon, ça commence à dater, mais en gros, c'est, une semaine de vacances est beaucoup plus reposant que 2 semaines, en fait. Parce que la première semaine, tu te reposes, sauf que la deuxième semaine, tu te fais chier, du coup, tu te fatigues, et donc tu arrives fatigué à l'école.
Pas moi, personnellement, j'ai tellement de choses à faire que...
Bon, oui, après mais ça dépend après, forcément. Mais
si t'as envie d'avoir une vie en dehors de tes études, au bout d'un moment.
En Allemagne, ils ont moins de vacances, ils n'ont pas 2 mois de vacances en été. Mmh. Mais en fait, ils ont des journées plus courtes.
Ils travaillent pas l'après-midi, c'est
ça. Ils ont des journées plus courtes et ça peut être aussi une des solutions.
Je sais pas, là, nous on a des journées qui sont pas si courtes que ça et au final, le temps il passe quand même vite et puis tu te fatigues quand même. Tu dis, oh, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Au final, tu fous rien. Et au final, c'est pire que d'avoir des semaines intensives et d'avoir des vacances.
Heures, enfin, là, maintenant, ça va mieux ce semestre, mais le semestre dernier, déjà passer à des journées de 8 heures, des journées de 8 heures, c'est ce qu'on a, des journées de 6 heures, ça permettrait déjà, je pense, de nous reposer ou avoir genre un mercredi après-midi ou un truc comme ça.
Bah, on n'est pas
déjà
mort à la fin, c'est grave.
Mais mentalement, ça fatigue.
Oui, surtout quand tu peux enchaîner plusieurs semaines à 40 heures de travail par semaine.
Le troisième semestre, là, c'était vraiment l'enfer. Hein.
Voilà, c'est pour ça. Genre, tu mets un petit peu moins de vacances. Genre, l'été, au lieu d'avoir 2 mois, tu as 1 mois et demi ou tu as 1 mois. Mmh. Et mais sauf qu'en échange, du coup, tu as des journées qui sont plus courtes ou tu as un jour de pause par semaine, des choses comme ça.
Je sais pas, je pense pas que ça marcherait. Genre, autant dans le système allemand, ils ont vraiment prévu le truc. T'as des journées qui sont très courtes de base, mais nous, si on faisait ça, on aurait des semaines qui se rajouteraient, des semaines et des semaines en fait.
Oui, bah c'est un changement.
Parce que c'est pas prévu en fait.
Déjà, c'est un changement.
T'aurais une année en plus, c'est tout. T'aurais pas 2 semaines en moins, t'aurais une année en plus.
Déjà, on peut se le dire, le système d'éducation en France, c'est de la merde par rapport aux autres pays. Ça fait des décennies, voire des siècles, que c'est exactement la même chose, en fait.
Non, c'est même de pire en pire. Il y a une dégradation au niveau de la qualité des enseignements, etc. On apprend...
La qualité de la rémunération, la qualité de travail des enseignants aussi, ça en découle.
Oui, mais dans tous les cas...
Un truc que j'ai remarqué, c'est que les profs qui sont plus âgés, ils sont plus attachés à un système d'éducation ancien, entre guillemets.
Mais parce qu'eux, à leur époque, ça pouvait marcher. C'était un bon système.
C'est juste qu'en fait, ça marche plus aujourd'hui. Et ça, je le vois, les cours en fait qui sont faits par des profs plus jeunes, finalement, sont quand même beaucoup plus dynamiques, intéressants, et permettent d'apprendre beaucoup plus de choses, en fait, j'ai l'impression.
Mais d'un autre côté, certains cours faits par des personnes plus âgées sont... Il y a beaucoup plus de... T'as l'apport notamment de la culture de la personne,
l'expérience et tout ça,
de l'expérience, et ensuite, t'as un bon cours, tu vois, que la personne, elle est spécialisée dans ce qu'elle fait, justement, et... Et des fois, c'est plus intéressant que d'avoir une personne plus jeune qui te dit tiens, je te mets un TP, il est bon le TP, hein, mais.
C'est vraiment deux méthodes différentes. Après, c'est vraiment des choix et c'est des méthodes d'éducation différentes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il y a des profs qui seront un peu plus âgés, enfin, qui ont connu un autre type d'éducation, qui fonctionneront peut-être comme à l'époque, qui seront moins. Je ne vais pas tirer à la page, mais.
Après, je pense que chacune de leurs méthodes d'éducation est bonne.
C'est ce que je dis, il n'y a pas de
mauvaise
méthode.
Mais pour les maths, par exemple, clairement, te laisser en autonomie, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Quoi. On a vraiment besoin de grosses bases parce qu'on est presque tous nuls en maths, on ne va pas se le cacher.
Par contre, il y a une matière qui est, pour moi, une des matières, voire la matière la plus importante à l'école, mais sur laquelle on passe énormément sur le côté, parce qu'au final, les cours, c'est soit mal fait, soit c'est de la merde, c'est l'éducation civique. Quand tu regardes... Par exemple, juste l'exemple du Japon. Au Japon, les premières années d'école, il n'y a quasiment aucun apprentissage. C'est surtout sur, le bien vivre et le fait de quelqu'un de normal, en fait, pas de vivre correctement. Et tu vois que ça, tu le ressens. Tu as juste à aller au Japon et puis là-bas, trouver une personne qui est méchante ou qui est juste pas gentille, bah, c'est... Ouais.
Bah, après, il y a d'autres choses. Au Japon, ils sont très focus sur pas mal de points.
C'est une culture aussi de la société en général aussi, qui est comme ça. T'as le shintoïsme, l'animisme. Le fait de respecter justement le fait que chaque objet ait une âme. Du coup, t'as déjà un respect des objets, mais en plus de ça, t'as un respect des personnes qui en découlent. Parce que tu dis, si tu respectes un objet, tu peux tout autant respecter les autres personnes. Et ils sont beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes. Ils ont du mal à exprimer leurs émotions aussi. C'est un problème en soi. Mais d'un autre côté, il y a quand même...
Bah, y a le
truc, une autre culture, après.
Mmh. Mais après, même si on passe au-delà de la culture, l'éducation civique, quelques années après avoir fini tous ces cours-là, je me dis que franchement...
Moi, je me souviens plus rien.
Oui, clairement, ça
m'a servi à rien,
littéralement. Mmh. Et l'éducation civique, ce qu'on t'apprend, je sais même plus ce qu'on t'apprend, mais moi, pour moi, l'éducation civique...
Comment ça marche, l'Assemblée nationale
comme ça, ouais.
Ouais, j'ai rien retenu.
Des trucs par rapport à la légalité des choses, mais...
Ouais, ils devraient t'apprendre justement à bien vivre, être courtois, gentil, être respectueux, simplement.
Mais même au-delà de ça, ils devraient nous apprendre juste comment la société fonctionne et surtout comment se détacher des faits accomplis et de la société dans laquelle on vit. Enfin, avoir un esprit le fait de pouvoir critiquer justement la société dans laquelle on vit, parce que ça, on te l'apprend à aucun moment.
Et surtout aussi avoir du recul. Chez nous, il y a la sacro-sainte personne dirigeante et il y a la sacro-sainte autorité qu'il faut suivre. Soit que ce soit les professeurs, que ce soit la police, que ce soit les médecins, que ce soit
l'État, etc. Parce que dès le collège, on t'apprend pas à respecter les choses, ouais, c'est ça.
Bon, d'un côté, c'est quand même bien qu'au collège, ils respectent, parce que bon, sinon, ce sera un petit peu le bordel si...
Ouais, c'est déjà le bordel, hein, donc quitte à avoir le bordel.
Mais d'un autre côté, apprendre à critiquer, à entendre la critique, ça permettra aussi d'avoir, je sais pas, en retour, un peu plus de... comment dire, un peu plus de respect dans l'autre sens. Enfin, je veux dire, quand tu peux critiquer quelque chose, quand tu peux critiquer quelque chose et l'améliorer pour que ça te paraisse mieux, tu vas moins foutre le bordel et moins le détruire.
Rediriger la violence, au moins. Que ce soit à travers le sport ou juste à travers de l'éducation en général. Par exemple, quand tu es jeune de banlieue, dans ta famille, ça peut mal se passer. Tu peux avoir, par exemple, une mère alcoolique, un père qui s'est cassé, une mère qui a plus d'autorité sur toi ou qui fait que te gueuler dessus en permanence. Et... clairement, si tu arrives à te dire, tiens, c'est pas à cause de ma mère, mais c'est à cause de la société qui a fait en sorte que je sais pas, mon père se soit cassé parce qu'il avait peur. J'en sais rien, mais y a moyen d'exploiter ça dans tous les cas pour ne pas justement être violent envers les autres.
Ouais, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France actuellement.
Ouais.
Mais clairement, ouais. Après, bon. On va éviter de s'étaler trop parce qu'on est parti de l'E3C et maintenant on parle carrément sur le respect dans la société. Mais
je pense qu'avoir ces méthodes d'éducation, ce serait intéressant de réorganiser, d'essayer de ramener des personnes qui n'ont pas forcément le même avis, des professeurs et tout ça, ou même des professeurs des écoles, des choses dans le genre, pour en discuter avec eux parce que nous, on a le point de vue étudiant.
Ouais. Mais après, même s'ils voulaient vraiment appliquer ces méthodes-là, c'est super dur en tant que personne. Qui est dans l'enseignement, quoi, de les appliquer, parce que t'as pas les moyens financiers de le faire, et puis ensuite t'as un programme à suivre, et si tu suis pas ton programme, l'inspecteur il te tape sur les doigts, et ensuite ton salaire s'en fait ressortir, et ensuite ta réputation aussi, et du coup, tout s'en va.
Il y a des méthodes alternatives de lecture qui fonctionnent, qui permettent de mieux apprendre. Je me souviens, c'est quelqu'un de ma famille qui enseigne la lecture comme ça, qui est quelque chose qui marche très bien, mais qui est pas les choses officielles. Je crois que c'est déjà un peu fait taper sur les doigts.
Parce que c'est pas la bonne manière, en fait. Ça respecte pas les programmes qui sont dans les bouquins et qu'il faut suivre.
Ouais.
Bon, je pense qu'on va pas tarder à arrêter sur ce sujet-là. Ouais. Juste avant, je viens de penser à une idée de chronique qu'on pourrait faire potentiellement la semaine prochaine, qui serait un petit peu une chronique débat. Je vous avais déjà présenté la chaîne Prince EA, donc que j'adore. Il y a une de mes vidéos préférées là-dessus qui parle en fait de...
Yvan, reste devant ton micro.
À quoi sert l'école, en fait. Tout simplement, résumé de la vidéo très rapidement, c'est juste que à l'école, on t'apprend plein de trucs qui te serviront plus ou moins à rien, plus tard. Mais on ne t'apprend pas à payer tes impôts, à trouver un logement, trouver un travail. Mm. Et tout ça, en fait. Au final, l'école, globalement, pour ta vie pour ta vie future, professionnelle et même personnelle, elle te sert quasiment à rien, je trouve.
Moi, on m'a toujours dit, si tu n'as pas des bonnes notes à l'école, tu n'arriveras pas dans la vie professionnelle à avoir de travail, etc. Du coup, j'ai toujours travaillé énormément. Et au final, je me rends compte que même si tu travailles énormément, bah, en fait, t'es pas certain d'avoir un emploi après parce que tu as énormément de domaines qui recrutent plus, t'as des barrières de tous les côtés et à aucun moment, alors ça les conseillères d'orientation aussi, il faudra en parler parce que c'est un vrai fléau.
Je suis jamais allé voir ma conseillère d'orientation.
J'en ai vu une, je crois, une fois.
T'en vois peut-être une ou deux fois, mais ça sert strictement à rien, quoi. La meuf, elle te dit, ouais, non, tu peux pas faire ça. Moi, on m'a jamais parlé de l'informatique en tant que voix, tu vois, et j'aurais bien aimé qu'on le fasse à un moment où qu'on parle justement des métiers qui auraient pu me rapporter de l'argent et que j'aurais pu faire, quoi. Mais... Il y a vraiment un mauvais truc par rapport à ça.
C'est sûr.
Mais après, il y a aussi le sujet comme quoi on demande de plus en plus tôt aux élèves de trouver la voie qui leur correspondra toute leur vie. Alors que
non, tout est interchangeable.
Un gamin de 14 ans, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, il ne sait pas, quoi.
Puis même entre 18 ans et 23 ans,
j'ai 19 ans et je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. En fait.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire de notre vie, quoi. Donc demander à des gosses de 15-16 ans, c'est un peu... Je trouve ça complètement hypocrite, en fait.
Après, il ne faut pas généraliser. Il y en a, ils savent ce qu'ils veulent faire dans la vie et ça va marcher. La très grande majorité, soit ne savent pas du tout, soit pensent avoir un truc, mais au final, ne le correspondent pas.
Et souvent, les gens qui pensent avoir quelque chose depuis 15 ans et qui sont persuadés, c'est des gens à qui on n'a pas, avec lesquels il n'y a pas eu de discussion et qui sont persuadés d'une chose qui n'est pas forcément bonne pour elles, en fait, et qui foncent dans le mur, en fait. Et qui vont vivre une vie qui peut être hardcore des fois, c'est pas forcément évident.
Ouais.
Bref,
on passe à la suite.
Ouais. Bon, pour résumer, le 3C, les 2003, vous êtes les cobayes du gouvernement.
Les 2002 aussi, avec le nouveau bac l'année dernière.
Aussi.
Ouais. Bref.
Génération sacrifiée.
Moi, je vais vous parler d'un truc toujours très fun. Actuellement, il y a un giga bordel entre la Turquie et la Grèce. C'est un énorme bazar, puisque en gros, la Turquie a décidé de ne plus bloquer les migrants à ses frontières, parce que Erdogan, il n'est pas très copain, parce que c'est un peu un dictateur. Il n'est pas très copain avec l'Europe, et déjà, l'Europe a des accords avec lui, et ça a bien fait jaser.
Mais attends, s'il n'est pas content avec ça, pourquoi justement il laisse les migrants dégager
Parce qu'en fait, avant, il avait un accord financier avec l'Europe, où en gros, l'Europe lui filait de la thune, et lui bloquait les migrants à sa frontière. Parce que beaucoup de migrants passent Syrie, Turquie, pour après remonter sur l'Europe. Plutôt que passer par la mer.
Et du coup, ils disent juste c'est un travail en plus, j'ai pas envie de le faire.
Non, c'est juste parce que l'Europe est en train de le faire chier parce que c'est un dictateur et qui fait de la répression politique sur son citoyen et tout ça. Okay. Et donc en retour, il fait l'Europe, niquez-vous.
Bah pourquoi l'Europe prend pas des mesures pour justement bloquer les migrants autour?
Parce que c'est ce qui se passe. Il y avait des mesures qui étaient. C'était la Turquie qui bloquait. Et là, actuellement, comme la Turquie bloque plus, ça se passe en Grèce.
Mais je veux dire, c'est pas vraiment un moyen de menacer la Turquie. Enfin, tu peux avoir d'autres pays du coup autour qui justement bloquent les migrants à la place de la Turquie.
En fait,
si tu leur donnes les moyens financiers que tu étais censé donner à la Turquie et que tu leur enlevais du coup.
En fait, le truc c'est qu'ils ont déjà filé les moyens financiers, mais si tu regardes une carte, tu as plus ou moins j'essaie de trouver une carte, ça va être pratique au trackpad, mais
la carte sera disponible dans le lien.
Nique-toi.
Elle sera surtout disponible dans 3 heures. Il va falloir qu'on mouline là en attendant.
Non, je vais réussir. Mais en gros, tu as la Turquie. Regarde, je l'ai. La carte. Ici, tu as la Turquie qui bloque au milieu.
On vous affichera ça au montage.
Là, la Turquie qui vient jusque-là. Et en fait, l'objectif des gens, c'était d'arriver dans un pays d'Europe.
Ouais, mais là, la Bulgarie et la Grèce, ils peuvent très bien filtrer les migrants, non?
C'est ce que j'allais dire. La Grèce, c'est le bordel parce que la Grèce, ils bloquent. Et que la Turquie, pour faire pression sur l'Europe, la Bulgarie, je suis même pas sûr que c'est. Bulgarie, c'est dans l'Europe ou pas?
Europe peut-être, Union européenne, non?
Je crois que c'est pas dans l'Union européenne, mais
ouais, non, c'est peut-être pas dans l'Union.
En gros, un des objectifs, c'était de rejoindre la Grèce pour pouvoir faire des demandes de papiers, etc. Et en gros, la Turquie, elle servait de barrage parce que la Turquie, c'est vraiment t'as la Syrie et tout ça, et par les terres, tu pouvais rejoindre la Grèce. Et la Turquie servait de barrage. T'avais des passeurs qui faisaient passer de la Turquie à la Grèce. Mais sauf que maintenant que tu as la Turquie qui fait plus cet effet de barrage parce que leur objectif, c'est de faire chier l'Europe.
C'est pas l'Irak et l'Iran qui
parlent. Non, c'est plus bas. C'est là, tu as l'Irak qui est à l'Iran en dessous.
Bouge ton micro.
Mais et donc, en gros, tu as la Turquie, tu as Erdogan qui a décidé de dire bah, l'Europe, vous m'emmerdez, parce qu'en gros, il a aussi emprisonné des responsables de Amnesty International parce qu'il dénonçait de la dictature. Quoi. C'est une dictature.
J'aimerais bien savoir ce qui se passe vraiment en Turquie, parce qu'en vrai, on n'en parle pas souvent. Mais
C'est une vraie dictature.
Ouais. Moi, j'avais un ami qui avait ses parents qui étaient policiers en Turquie, et c'était assez intéressant ce qu'il me disait à chaque fois.
Mais c'est une vraie grosse dictature. Et donc,
ça faisait un peu peur. Hein.
Oui. Et donc, actuellement, c'est le gros bazar à la frontière grecque. Parce qu'en gros, t'as la Turquie qui fait non, mais allez-y, l'Europe c'est ouvert, allez-y, vous allez pouvoir passer, allez-y. Et la Grèce elle fait bah non, c'est mort, dégage. Et donc en fait, c'est le gros bazar. Il y a des affrontements qui ont lieu entre à la frontière parce qu'il y a militaires plus policiers et tout ça qui sont à la frontière parce que ils peuvent rentrer et il y a plein de choses comme ça qui sont très très joyeuses.
Mais je vois pas l'intérêt de pas bloquer tes propres frontières. Enfin, c'est la Turquie qui perd au final.
Non, 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 elle y perd pas. C'est un moyen de pression pour l'Europe. C'était un énorme moyen de pression pour l'Europe. C'est un énorme moyen de pression. C'est, ça permet à l'Europe, en échange, le moyen financier à la Turquie, de ne pas avoir à gérer les migrants. C'est la Turquie qui gère tout, qui se démerde et qui gère tout. Et c'était un des trucs importants. Et là, comme la Turquie, comme ils ne sont pas très en rapport d'accord avec l'Europe, ils avaient cet accord-là, parce que l'Europe, ça les fait ouvertement chier de gérer les migrants. On regarde comment ça se passe en France, en Italie et tout ça. Et,
c'est à chaque fois un espèce de tabou.
Voilà, et en gros, c'est pour ça que ça bloque à la frontière. Et c'est pour ça que la Turquie ne bloque plus, laisse totalement passer et que ça se retrouve à bloquer à l'Europe.
Ça va être super joyeux, ça, dans les temps à venir.
Ah bah, c'est déjà super joyeux. Hein.
Mmh. Bah après, quand tu vois que l'Italie, la France, etc., on n'arrive déjà pas à gérer nos migrants, bon...
Bah oui, non, mais
c'est... besoin de se poser plus de questions.
Bah c'est pour ça, c'est parce que... enfin, il y aura les moyens, mais là, comme...
Attends, s'il te plaît, déjà, pour la réforme des retraites, oh non, non, on peut pas, on n'aurait pas la thune. Et puis là, le coronavirus, ça va nous faire plus de...
Le truc, c'est que la thune, tu la trouves, sauf qu'ils font des cadeaux aux riches. Donc bon, voilà, au bout d'un moment, on se plaint qu'il n'y a pas de thune, mais la thune, elle y est. Elle est là, elle est juste dans les mains de Vinci, dans les mains de Bolloré, dans les mains de Bouygues, dans les mains des banques. Il y a une thune, il y a de la thune.
Hashtag Bolloré, on t'aime.
Hashtag Balkany, hashtag tout ça, hashtag tous les riches.
Ouais.
Donc ils font des exils fiscaux. Bref, voilà. Là, c'est pas le sujet, mais il y a la thune qui est là. On pourrait les gérer. On est une république sociale. Et de toute façon, tant qu'on gère pas ces problèmes de migrants et tout ça, tant qu'on gère pas le problème de la... Tant que la source n'est pas réglée, il y aura toujours ces migrations parce que les gens n'ont pas envie de rester dans un pays en guerre. Et ils se barrent pour leur survie, tout simplement.
Le problème, c'est ça, c'est que souvent les gens ont des a priori sur les migrants, comme quoi, oui, c'est une espèce d'espèce pestiférée, on les aime pas, ils nous prennent de l'argent, alors qu'au final, c'est juste des gens qui partent de leur pays, sauf parce qu'ils ont plus du tout d'argent et qu'ils ont plus aucun moyen de survivre. Donc c'est juste un moyen de vivre, quoi. Soit parce que
mais ça s'appelle le racisme.
Le pays est en guerre et ils n'ont pas de moyen de faire autrement, quoi. Et ils essayent d'aller dans les pays où ça va un peu mieux. Sauf que même dans les pays où ça va mieux, maintenant, tu te rends compte qu'au final, ça va pas si bien que ça. Et du coup, les migrants, ils se retrouvent à se dire qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On va où ?
C'est le principe du racisme. Mais
du racisme.
Oui, mais il y a aussi le racisme du c'est des migrants et ça dégage. D'abord nous et du nationalisme et tout ça. Du coup, c'est pour ça que la Turquie est en train de faire pression sur l'Europe grâce à ça. Voilà. Et de toute façon, il y a une chose qui, je trouve, montre très bien ce truc et que si c'était dans notre sens, on ne comprendrait pas. Il y a la chanson, super chanson, Rentrez chez vous de Big Flea et Oli.
Putain, je vais le dire.
Qui montre très bien les changements, l'échange, juste si on change de perspective et de point de vue, à quel point c'est. C'est stupide de réagir comme ça. Voilà.
Ultra poignante, cette musique.
Elle est très belle. Du coup, voilà, c'est la fin des actus. Et c'est la fin un peu des actus chroniques et tout ça.
On a presque tenu une heure.
On a presque tenu une heure. Mais en gros, il reste les coups de cœur maintenant.
J'ai trois idées de chroniques pour la prochaine fois.
Il reste les coups de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur, Émilie ?
Non.
Est-ce que tu as un coup de cœur, Yvan ?
Moi, je partirais du coup un peu sur le sujet de l'école qu'on a pris avant. Donc, la vidéo de Prince EA que... sur donc à quoi sert l'école, what is school for, mais vu que j'ai déjà présenté la chaîne de Prince Yael la dernière fois donc j'ai pas vraiment de coup de cœur à proprement parler, quoi.
Ok, Bon, bah, moi j'ai quelque chose. J'ai un film qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile, qui est réalisé par je ne sais plus qui est dispo sur Netflix. Et en gros, c'est un gros machiste de merde qui se cogne la gueule contre un poteau et qui se retrouve dans un monde où tout est inversé, où c'est un matriarcat qui est très puissant.
T'en avais pas déjà parlé ?
J'en ai pas encore parlé, non. Mais okay. Je t'en ai peut-être déjà parlé à toi, mais j'en ai pas encore parlé dans l'émission. Parce que je me fais une liste et je dégage les trucs de la liste quand je les mets.
Intelligent.
Ah, un petit peu. Sinon, après, tu vois, je trouve rien sur le tas, mais merci Notion. Et du coup, voilà, c'est un film qui est très très beau, qui est très intéressant et qui montre bien, je trouve. J'ai pas envie de parler de féminisme parce que c'est quelque chose que je ne connais pas suffisamment et que j'ai peur de blesser des gens à en parler. Mais que je trouve qui est quand même assez important et assez poignant. Tu regardes les choses, t'es en mode. Bah ouais, mais pourquoi c'est bizarre ? Mais dis donc ! Mais pourquoi elle fait ça, ce mec ? Ah oui, c'est vrai qu'en fait, si tu inverses, c'est le monde actuel.
Après, il me semble que le film-là, justement, il était peut-être un peu trop féministe sur les bords, dans le sens où. Normalement, t'es pas. Enfin, il me semble que c'est quand même assez hardcore.
Pas si hardcore que ça, mais en fait, t'as vraiment la situation qui est inversée. C'est un peu des stéréotypes, mais. Mais le film est assez intéressant, il est très beau, il est dispo sur Netflix, il dure 1h30, 1h40. Et il est français, c'est un film français. Et il est très bien, et en gros, c'est vraiment un gros machiste qui se retrouve dans un monde inversé, qui se retrouve à bosser pour une nana qu'il avait essayé de draguer en mode gros lourd.
Est-ce qu'il doit s'occuper des gosses à la maison ?
Non, parce qu'il n'y a pas de gosses, mais il y a plein de situations. Mais
attends, du coup, est-ce que c'est les mecs qui tombent enceintes ?
Non, c'est quand même les femmes qui tombent enceintes. Mais en gros, l'explication, c'est comme les femmes ont été fortes, c'est elles que. C'est pas oh mon dieu, tu as mordu la pomme, tu prendras toute la douleur et tout ça. Et non, ça c'est les femmes qui sont les plus fortes, donc c'est pour ça qu'elles ont c'est elles qui portent les enfants. Et pareil, il y a aussi un exemple qui est assez intéressant. Bon, je parle juste de cette scène, cette micro-scène, c'est pas vraiment un spoil, c'est dans le début. Vraiment, rien qu'il y a un moment où il y a une scène d'accouchement, et c'est pas accouchement allongé, comme ça. Avantage les médecins qui n'ont pas à se baisser et tout ça, c'est debout pour que ce soit plus simple et ça montre déjà rien que sur cet exemple là comment ça peut changer les choses que ce soit vu par des femmes plutôt que par des hommes.
Après le problème c'est que même si genre je sais pas tu pouvais changer certaines choses comme ça en switchant ça en mode homme-femme etc, ce qui est vraiment triste dans notre société actuellement c'est que la plupart des personnes qui détestent les femmes, c'est les femmes avant tout. C'est pas forcément les hommes. Et c'est là que c'est assez flippant, en fait. Parce que tu te dis, si les femmes me défendent pas et les hommes non plus, qui me défend, quoi ? Personne.
Bah oui. Et il le montre aussi, il le montre aussi, ça, le film.
C'est hardcore.
Mais c'est assez glauque. Mais je vais pas en parler plus profondément pour pas vous spoil. Parce que le film, il est très, très bien. Il est très, très cool. Et allez le voir. D'accord. Il y vaut le coup. Voilà. Okay. Bon, est-ce que tu as une autre idée de coup de cœur maintenant ? Toujours pas ?
Non, pas forcément. En ce moment, je lis des bouquins de Maupassant.
Parle-nous de tes bouquins de Maupassant.
Je saurais pas trop quoi dire là-dessus.
Bon, bah d'accord. Bah, tant pis.
Mis à part que t'as toujours une vision des prostituées qui est assez intéressante. Parce que ça fait toujours partie de la vie normale des gens, en fait, au 18e, 19e siècle. Et c'est toujours choquant de voir, en fait. Que aller chez les putes ou je sais pas leur parler etc, c'était vu comme normal. C'est toujours un peu bizarre.
Ouais. D'accord. Bon bah merci. Bon bah c'est la fin de cet épisode.
On me demande pas moi.
Mais t'as déjà parlé toi.
Ouais j'avoue. Mais
pour le coup de cœur.
Mais t'as déjà parlé.
T'as déjà dit ton coup de cœur.
Ouais mais j'ai pas vraiment un coup de cœur.
T'as autre chose ? T'as un autre coup de cœur ?
À la limite j'ai pas le dernier album de Angèle mais l'avant-dernier qui s'appelle Brawl et que j'aime beaucoup. Qui est sorti il y a un moment maintenant, 5 octobre 2018, mais que je suis allé au magasin et puis je l'ai vu en vinyle et puis je me suis dit oh vas-y, et maintenant je l'écoute souvent.
Il y a beaucoup de gens qui le détestent cet album. Moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est vraiment un cliché de la meuf... bourgeoise féministe qui dit des choses.
Ça se sent qu'il y a pas mal de clichés, mais moi j'aime bien. Donc
alors que, enfin, moi je trouve que c'est assez léger au final sur ce qu'elle dit. Enfin, c'est pas des messages, c'est des messages forts, mais qui sont dits d'une manière assez douce et je trouve ça assez cool.
Ouais.
Voilà. Je l'ai pas écouté, donc je peux pas témoigner.
Franchement, moi j'aime bien.
D'accord.
Petite étoile cœur son featuring avec Gérard Depardieu et puis Philippe Catherine.
Ça, c'était pas dans cette Gérard Depardieu. dans un truc qui est un peu féministe.
Tu regarderas le clip.
Depardieu dans un truc. Quoi ?
Tu regarderas, tu regarderas.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bref. C'est fini ?
Ouais.
Fin de l'épisode ? Bon, bah, c'est la fin de ce 16e épisode de l'Alconos. Peut-être l'avant-dernier. On ne sait pas, faut qu'on voit si on aura le temps d'enregistrer encore plus tard. De toute façon, on essaiera de faire quelque chose pour Podren. Non, c'est pour le Knackfest.
Je parle de lui-même.
Non, pour le Knackfest, où on y sera tous.
Ouais.
Je me suis planté de mots, mais on sera tous au Knackfest, donc on essaiera de faire un truc, de voir avec les autres, peut-être un truc où on parlera d'actu, ou peut-être un débat, ou un jeu autour de l'actu. Faut qu'on voit ce qu'on prévoit.
Ouais. C'est bientôt en plus.
C'est quand ?
C'est dans 3-4 semaines. Okay. Voilà, donc on verra ça. Et de toute façon, comme d'habitude, de toute façon, la chaîne de l'Alconos ne fermera pas, parce qu'on reprendra peut-être l'année prochaine, on verra ce qu'on fait. Et en tout cas, merci à tous d'avoir écouté. On vous dit à la prochaine, enfin dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et salut tout le monde.
À la prochaine.
Salut. Salut.